A priori, Dieu ne doit plus rien à l'homme qui est né avec le péché originel. Tout le monde entier est sous la colère de Dieu, et lorsqu'un petit enfant naît, il est appelé un enfant de la colère, et son destin éternel, c'est d'aller en enfer. Il y a dans celui qui prie pour la conversion de son prochain, il y a une obligation, cette personne, ce chrétien, a une obligation. C'est d'avoir une notion aussi claire que possible de l'infinie justice de Dieu. Dieu est un Dieu saint dont l'alliance a été rompue par le pécheur. Alors évidemment, on se pose spontanément la question, oui, mais les enfants qui naissent dans le péché, les gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas baptisés, que sais-je, ne savent pas qu'ils ont rompu l'alliance. Ils ne le savent pas d'une certaine manière, mais curieusement, dès qu'ils le savent, dès qu'ils l'apprennent, ils confirment ce rejet de l'alliance de Dieu. On dit toujours, après tout, c'est nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont péché, et ce n'est pas ceux qui sont venus, qui sont nés des milliers d'années après. Non, mais curieusement, il se trouve que si n'importe qui était mis aujourd'hui dans la situation d'Adam, il referait exactement ce qu'Adam a fait et, si j'ose dire, il ferait pire. Donc nous devons, mes très chers frères, comprendre, a priori, avant même, ou plutôt au moment même où nous commençons à prier pour notre prochain, que notre prochain est dans une situation où Dieu lui est totalement hostile parce que notre prochain est totalement souillé par le péché. Si nous prions pour les pécheurs, c'est donc, mes très chers frères, en tant qu'enfants de Dieu. Non pas en tant que frère, que famille, que frère selon la biologie, selon la chair, selon la nature des pécheurs pour lesquels nous prions. Mais nous prions parce que Dieu, en tant que, il nous a fait ses enfants, a fait de nous des intercesseurs, parce que nous ne pouvons être les enfants de Dieu si nous ne sommes pas unis au Christ. Or, le Christ est celui qui intercède pour les pécheurs. Lorsque Moïse était sur la montagne et que Dieu lui a appris que les enfants d'Israël, nos pères, se vautraient devant le veau d'or et qu'ils étaient dans la rébellion et dans l'idolâtrie et qu'ils avaient complètement oublié la loi de Dieu, Dieu a dit à Moïse, je les détruirai et je ferai de toi une grande nation, comme il a dit à Abraham. Et qu'a dit Moïse? Il a dit, ayez pitié d'eux, je vais intercéder pour eux. Et il a invoqué la bonté de Dieu pour intercéder en quelque sorte, contre le dessein de colère que Dieu, de justice et de châtiment que Dieu avait contre nos pères. Donc nous sommes dans la place de Moïse, nous sommes dans la place de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons intercéder pour les pécheurs. C'est-à-dire que si nous prions pour les pécheurs, et d'une certaine manière, si vous y réfléchissez bien, il serait absurde de prier Dieu qu'il convertisse le prochain si la conversion du prochain ne dépendait pas entièrement de Dieu. Et il ne serait pas non plus logique de prier Dieu qu'il convertisse notre prochain si Dieu n'avait pas, en quelque sorte, a priori, une mauvaise volonté vis-à-vis de notre prochain, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de notre prochain à cause du péché de notre prochain. Donc, nous devons, si nous prions pour les pécheurs, mes très chers frères, c'est pour fléchir la colère de Dieu, et qui risque de s'abattre sur eux. Nous sommes dans le Christ, nous sommes de ce côté-ci de la muraille de la Jérusalem céleste, et nous intercédons pour ceux qui sont à l'extérieur et qui sont en danger de périr éternellement parce que la colère de Dieu vient comme un feu, comme une tempête sur eux, et vient pour les dévorer et les détruire. Nous prions donc pour les pécheurs, parce que notre mission donnée par Dieu en tant que chrétien, c'est de fléchir la colère de Dieu. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que l'on ne prie pas efficacement quand, par exemple, on demande seulement la force de convaincre par des raisonnements les égarés. Lorsqu'on dit au Seigneur, on peut le dire, mais il faut que ça soit dans le contexte plus général de ce que nous venons d'exposer de la doctrine de la conversion, ou plutôt la doctrine sous-jacente à la conversion. Nous ne devons pas dire, Seigneur, donnez-moi la force, une force de persuasion pour que je puisse convaincre ces gens. Nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire à certains moments où il faut parler. Alors il faut demander à Dieu la force de persuasion, il faut demander puis surtout son Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas seulement demander cela. Vous voyez? Pourquoi? Sinon, ça voudrait dire simplement que Dieu est au ciel et il est là en train de préparer les chambres de son hostellerie. Il y a des hommes à convertir, ou plutôt des hommes mécréants qui se fichent éperdument de Dieu. Et puis nous, nous sommes là, missionnés plus ou moins pour remplir l'hôtellerie divine. Et nous disons à Dieu, bah, écoutez, donnez-moi un petit peu, je ne sais pas moi, donnez-moi une bourse bien remplie, donnez-moi des arguments comme ça je pourrais aller et je pourrais convaincre les gens que ça vaut le coup de venir dans votre hôtellerie. Ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas entièrement faux, mais c'est largement faux. Vous voyez? Parce que quand il s'agit, quand notre Seigneur nous dit que Dieu a préparé un grand repas pour lequel les invités initiaux ont été, desquels les invités initiaux ont été rejetés, eh bien, il dit, allez rassembler tous ceux et contraignez-les d'entrer. Donc Dieu n'invite pas, en tout cas n'invite plus à venir ceux qui veulent, il invite, disons qu'il fait inviter de force, et ensuite il vérifie si tout le monde a bien l'habit blanc de noces. Ça c'est encore autre chose, nous en sommes simplement ici à la conversion. On prie d'une façon qui est tout à fait contraire à l'efficacité, lorsqu'on demande seulement la force de convertir par les raisonnements les égarés. Les gens, évidemment, notre prochain, les gens qui ne sont pas convertis, sont égarés, c'est évident, mais ils sont bien plus qu'égarés, ils sont ennemis de Dieu. Et ils ne sont pas simplement des brebis qui sont loin du bercail et hors de la vue du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est aussi le vrai Dieu, et le vrai Dieu est courroucé contre ceux qui osent ne pas être ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire les brebis de son bercail. Donc on ne prie pas efficacement lorsqu'on demande à Dieu seulement la force de convaincre par des raisonnements les égarés. On ne prie pas efficacement, mes très chers frères, lorsque on fait l'apologie des pécheurs à Dieu. Vous savez qu'on prie devant Dieu et on leur dit, on dit au bon Dieu, Seigneur, convertissez donc un tel, regardez, il est tellement beau, il a tellement de qualités, regardez, il est tellement intelligent. Regardez quel bon apologiste il pourrait faire pour la religion chrétienne. Seigneur, il est tellement vertueux qu'il mérite d'être chrétien. Alors, si vous voulez vraiment condamner quelqu'un à mort, faites l'apologie de ses qualités à Dieu. Déjà, vous êtes un imbécile quand vous le faites parce que Dieu sait tout, parce que c'est le Dieu qui a créé cette personne avec ses qualités et ses vertus, ses vertus naturelles. Maintenant, quand vous venez à Dieu, à ce Dieu courroucé qui vous demande, parce que vous êtes son enfant dans le Christ, d'intercéder auprès de lui et de fléchir sa colère, lorsque vous venez et que vous lui dites, regardez, cette personne, convertissez-la, elle mérite d'être chrétien, vous accroissez la colère de Dieu contre cette personne. Lorsque vous dites, convertissez mes parents parce que ce sont des gens très vertueux, lorsque vous dites, convertissez mon cousin parce que il est très riche et il pourrait faire du bien à l'église, lorsque vous dites, convertissez un tel que j'ai contacté d'une manière ou d'une autre parce que c'est mon collègue et puis parce qu'il est vraiment, il a un bon fond et c'est pas comme les autres qui sont des imbéciles, des fêtards, etc. D'une certaine manière, si c'était possible, heureusement que Dieu n'écoute pas ces prières-là, mais si c'était possible, si Dieu était un homme, vous monteriez Dieu contre les personnes pour lesquelles vous priez. Faire l'apologie du pécheur, des vertus du pécheur à Dieu, c'est vraiment prier d'une façon très inefficace. Imaginez que Dieu vous exauce. Imaginez que cette personne vertueuse, intelligente, bien disposée soit. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah, je pense que Dieu a fait un bon choix. Comment peut-on être aussi insolent? Mes très chers frères, comment peut-on être aussi impertinent devant ce Dieu dont la colère est irritée et enflammée par les péchés et surtout par les fausses vertus de ceux qui ne l'aiment pas? Vous voyez, il y aura encore d'autres choses à dire, mais je pense que celles-ci sont assez emblématiques. Lorsqu'on demande à Dieu seulement la force de convaincre, lorsque l'on fait l'apologie des vertus des pécheurs à Dieu, on prie d'une façon pour le moins très inefficace. Et puis, allons plus loin. On prie d'une façon inefficace quand on ne fait pas de sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient pour leur apostolat et qui disent, Seigneur mon Dieu, voyez, mon but, avec l'intelligence que vous m'avez donnée, c'est de convertir le maximum de gens et de telle sorte que votre famille s'accroisse. Alors, il y a une sorte de bonne volonté là-dedans, bien sûr, nous ne disons pas le contraire, mais la réalité, c'est vraiment, d'une certaine manière, le monde à l'envers et prendre Dieu pour un imbécile, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu, je vais faire des choses pour vous. Mais quand bien même vous pourriez intéresser les pécheurs à Dieu, si Dieu ne se tourne pas vers eux avec une face apaisée, vous ne feriez que les précipiter, comme les Chaldéens, les trois enfants, dans la fournaise ardente. Venez, venez voir mon Dieu, il est tellement bon, il est tellement intéressant, et puis c'est pas du tout ce qu'en disent les francs-maçons, etc. Regardez, je vais vous faire voir. Mais vous amenez vos amis et vous les jetez dans la fournaise ardente de la colère de Dieu. Et c'est de la folie. Alors heureusement que c'est quasiment impossible de le faire. Mais vous voyez, souvent, on invite des gens à la messe, on invite des gens à écouter des bonnes conférences, on invite des gens à lire des livres, etc. en disant, regardez, c'est très intéressant, ça vaut le coup de... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas infinitésimalement quelque chose qui relève de la stratégie. Il faut bien faire quelque chose par rapport aux mécréants qui se perdent. Il faut bien lancer quelques harpons dedans d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Mais ne nous imaginons pas que c'est ça qui convertit les gens. Si vous voulez prier efficacement et agir efficacement par rapport à ceux auxquels vous devez témoigner pour leur conversion, si vous voulez agir efficacement, faites des sacrifices. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est embrasée contre ceux pour lesquels Dieu vous demande de prier. Donc il faut fléchir Dieu. Et surtout, ne dites pas, mais Dieu, finalement, il convertit ce qu'il veut, c'est pas la peine de faire des sacrifices, de toute façon, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. C'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous procédions. Parce que sinon, nous sommes paresseux, et le paresseux ne va pas au ciel, donc tout ce que je viens de dire, je l'ai dit en tant que paresseux, donc en tant que potentiellement pas converti, et donc non chrétien. Si je suis vraiment chrétien, alors j'ai un devoir de prier, mais je dois prier efficacement. Et je dois prier en faisant des sacrifices. Ne nous imaginons pas que c'est parce que nous récitons quelques prières pour notre prochain, pour la conversion de notre prochain, que c'est parce que nous utilisons le scapulaire vert ou quoi, etc., pour qui est un don de Dieu, bien sûr, mais disons que ça nous dispense de faire des sacrifices. Tout ceci ne sont que des adjuvants, et encore, comme ils n'ont pas toujours existé dans l'Église, leur puissance est très faible. Parce que si quelque chose est supposé comme ce scapulaire qui est très puissant, mais comme si c'est quelque chose qui est supposé convertir infailliblement les gens, alors pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas donné avant? Ça veut dire que c'est juste un adjuvant qui fonctionne si Dieu veut. Mais que dès le début de l'Église, on a toujours intercédé avec des sacrifices pour ceux par rapport auxquels on a le devoir de prier pour leur conversion. Donc si vous voulez prier inefficacement, priez sans faire de sacrifice. Priez en ignorant que la colère de Dieu est contre les impies. Priez en ignorant que votre devoir est d'intercéder pour apaiser la colère de Dieu contre eux. Voyez, mes très chers frères, on peut prier, on peut éviter les erreurs, mais on peut tout en même temps et prier d'une façon qui n'est pas du tout efficace. La suite de l'oraison est la suivante. Ut quieus Danobisque somus, donnez-nous, à nous qui faisons aujourd'hui mémoire de sa conversion. C'est donc que Dieu convertit. Nous prions, et à un certain moment, Dieu apaise sa colère et donne sa grâce à celui qui doit être converti. C'est mystérieux. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? C'est mystérieux. Mais de notre point de vue, c'est probablement parce que nous n'avons pas assez prié, nous n'avons pas fait assez de sacrifices. Nous nous sommes trop reposés sur un aspect assez mécanique des prières. Nous prions, bon, c'est bien, mais enfin en même temps, ou bien nous pensons que ce sont des gens qui valent la peine, donc du coup nous les abordons comme s'ils étaient des recrues de choix du christianisme et nous ne les concevons absolument pas comme des pécheurs, ou si peu, ou alors, d'une certaine manière, nous désespérons, nous prions du bout des lèvres pour eux en disant de toute façon ils sont tellement mécréants que je sais très bien qu'ils ne se convertiront pas. Les deux attitudes sont mauvaises. Et il se trouve qu'un jour, Dieu convertit, gloire à Dieu. Dieu convertit, Deo gratias. Mes très chers frères, quand un homme se convertit, c'est que Dieu le convertit. Nul ne se tourne vers Dieu que Dieu n'ait auparavant détourné sa colère de lui. La conversion, c'est un petit peu comme une sorte de rafraîchissement qui est donné à quelqu'un qui est en train de rôtir. Le rafraîchissement, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous êtes encore près du feu. Si vous voulez rafraîchir quelqu'un qui est trop près d'un feu, c'est très dangereux de lui mettre de l'eau sur la figure, parce que l'eau va chauffer, elle va bouillir et ça va lui faire encore plus mal. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut éteindre le feu. De telle sorte que progressivement, la face embrasée de cette personne qui était trop près du feu va se rafraîchir. Nul ne se convertit que Dieu n'ait d'abord et avant tout fait un mouvement de sa grâce dans son immense miséricorde vers cet homme, avant même qu'il le sache, qu'il ne le sache. Nul ne se tourne vers Dieu que Dieu n'ait auparavant détourné sa colère de lui. Mais alors, cette colère, il ne la détourne pas de manière qu'on puisse dire « Oh, ben, ça valait bien la peine d'être furieux contre lui, puis maintenant de se calmer. » Mais très chers frères, n'ayons pas d'impertinence envers Dieu, parce que nous sommes là ici à un point crucial du christianisme, de la religion chrétienne, c'est-à-dire que nous sommes là dans l'application du salut, l'application de la bonté divine. Ne reprochons jamais à Dieu de ne pas avoir converti assez vite quelqu'un. Reprochons-nous, à la rigueur, toujours à nous-mêmes de ne pas avoir assez prié et s'être assez sacrifié pour lui. Mais ne reprochons jamais rien à Dieu, parce qu'il se pourrait même que notre propre conversion nous soit ôtée si nous continuons à être insolents envers Dieu. La colère de Dieu, à un certain moment donné, mystérieusement, se détourne du pécheur pour lui permettre de se convertir. Mais cette colère qui se détourne du pécheur et qui fait que ce pécheur va devenir un converti, cette colère s'abat ou s'est abattue sur notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'homme qui est en abomination devant Dieu, tout d'un coup, reçoit la puissance de la grâce pour devenir enfant de Dieu, c'est que le Christ, le Fils éternel de Dieu, a été fait malédiction pour lui. Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis. C'est que Dieu a pu sauver cette personne, a pu convertir, déjà commençons par le commencement, convertir cette personne, parce que le Christ a pris sur lui le poids de son péché, le poids de la malédiction, et qu'il l'a consommé, qu'il l'a expié. Pourquoi Dieu sauve-t-il ? Pour l'amour de son Fils. C'est la réponse, l'unique réponse à cette question. Pourquoi Dieu sauve-t-il ? Nous avons vu que Dieu n'est pas du tout obligé de sauver. Depuis que les hommes ont péché, Dieu ne leur doit strictement plus rien. Il n'est obligé à eux, par rapport à eux, à rien de bon. Il a une seule obligation qui reste, c'est une obligation qu'il a vis-à-vis de lui-même, c'est de venger sa justice, venger sa sainteté et de punir les pécheurs. Pourquoi Dieu sauve-t-il néanmoins ? Pour l'amour de son Fils. Il y a quelque chose de compréhensible, il y a surtout quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux. C'est le mystère de la bonté divine qui n'a pas sa raison d'être dans ceux qu'elle aime, les pécheurs, mais dans le Fils lui-même, éternellement le bien-aimé du Père, qui épuise tout l'amour que le Père, toutes les complaisances que le Père a pour son Fils. Si Dieu aime un pécheur et lui accorde la conversion, c'est parce qu'il l'aime dans son Fils. Il l'aime en tant qu'il l'a aimé dans son Fils. Il l'aime en tant qu'il l'a donné avant toute éternité à son Fils pour qu'il soit un membre de son corps mystique. Il y a là quelque chose de mystérieux. Nous devons adorer et non pas essayer de trop comprendre, parce que nombreux sont ceux qui ont essayé de scruter la chose et qui se sont brûlés les yeux. Le mystère de la bonté divine, c'est qu'il n'y a pas les hommes qu'elle aime, cette bonté divine, ne fournissent pas à Dieu la raison de son amour. Pourquoi Dieu demande-t-il que nous intercédions pour les pécheurs ? Nous avons commencé déjà à le voir, mais je donnerai trois raisons pour nous les chrétiens. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'intercéder pour les pécheurs alors que c'est lui qui convertit, que c'est lui qui détourne son regard courroucé d'eux, que c'est lui qui a réglé le prix de leur salut avec son Fils ? Pourquoi Dieu nous associe-t-il à ce ministère de rédemption, par l'intercession, par le devoir de l'intercession? Eh bien, pour nous chrétiens, premièrement, c'est parce que cela prouve notre propre reconnaissance envers lui. Nous étions comme eux, nous étions comme ce publicain méprisable, nous étions comme ces pécheurs, nous étions exactement comme eux, dignes de mort, mais nous avons été aimés en Jésus-Christ. Quelle reconnaissance, quelle sera notre reconnaissance envers Dieu ? En intercédant pour les pécheurs, sans les mépriser, mais sans en faire la louange non plus. En intercédant pour les pécheurs. C'est la première raison pour laquelle Dieu veut que nous intercédions pour les pécheurs, parce que cela prouve notre reconnaissance pour notre propre conversion. Deuxièmement, parce que nous affermissons ainsi notre élection. par l'humilité. Mes très chers frères, réfléchissons bien, parmi tout le groupe humain, social ou autre auquel nous appartenions, d'autres n'ont pas été choisis qui valaient beaucoup mieux que nous. D'autres beaucoup plus intelligents, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus doués, avec beaucoup plus d'affinité pour les choses religieuses, peut-être, les choses spirituelles du moins, n'ont pas été choisis. Mais Dieu a choisi telle ou telle personne, parfois telle ou telle crapule, parmi un groupe de gens bien. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis, nous? Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, mes très chers frères? Pourquoi est-ce qu'il vous a fait naître dans une famille catholique et vous a rendu capable d'affermir votre élection par une sorte de conversion douce qui fait que vous persévérez désormais dans la foi de vos parents? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Pour que nous affermissions notre élection. Par l'humilité. Vous allez dire, si l'élection n'est pas quelque chose qui est discutable, elle existe ou elle n'existe pas. C'est une expression de l'apôtre. Nous n'allons pas être plus intelligents que l'apôtre. Il faut affermir notre élection par l'humilité. Si nous nous disons, c'est normal que Dieu m'ait choisi parce que j'étais le plus intelligent, il est fort probable que vous êtes en train d'apostasier. Si vous dites, mais moi j'ai toujours été chrétien, j'ai la foi chevillée au corps, et c'est une chose très très bonne, mais que n'as-tu que tu n'aies reçu? Nous devrions être encore plus reconnaissants si nous avons eu la grâce de naître dans une famille chrétienne et de n'avoir jamais été mécréants. Grâce à Dieu, parce que justement nous aurions pu l'être. Et il y a aussi des gens qui ont la grâce insigne de naître dans des familles chrétiennes, et dès qu'ils en ont l'occasion, ils s'en vont. Pourquoi? Pour que ceux qui restent louent Dieu de les avoir gardés. Parce qu'il n'y a personne qui naît dans une famille chrétienne et qui demeure chrétien, sans que Dieu lui donne la même grâce qu'il donne à la pire des crapules pour passer du règne de Satan au règne de Dieu. C'est la même grâce, la grâce efficace, mes très chers frères, par laquelle seuls nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et non par les œuvres, dit saint Paul. Mais une fois que nous avons été convertis, l'une des plus grandes œuvres que nous pouvons manifester pour témoigner notre reconnaissance envers Dieu et affermir notre élection, c'est cette humble supplication envers Dieu pour qu'il convertisse les pécheurs. Puis je vous donne une troisième raison pour laquelle Dieu veut que nous intercédions pour les pécheurs, c'est parce que ça relève le mystère de la communion des saints. Les conversions sont la moisson que d'autres ont semée. Nous avons été convertis, peut-être par les prières de quelqu'un d'il y a 2, 3, 400 ans. Qu'en savez-vous? Peut-être une humble religieuse dont personne ne connaît le nom, sinon peut-être sa pierre tombale qui a depuis disparu, a intercédé pour vous afin que vous soyez convertis. N'allez pas croire que si Dieu vous a converti, c'est parce qu'il a vu des bonnes dispositions et qu'il a vu que vous étiez très intelligent et déjà très bien disposé, que vous aviez tout compris à la dissidence et qu'il manquait plus que la cerise sur le gâteau pour que vous deveniez un apologiste de choix, un apologiste de choix pour l'Église d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'infatuité, de la fatuité, c'est de l'orgueil, c'est de l'imbécilité, mes très chers frères. Si Dieu nous a choisis, c'est parce que mystérieusement, c'est un mystère qui est dans le Christ. Si Dieu nous a choisis, c'est peut-être parce que nous étions les pires des hommes et les plus incompétents. Parce que Dieu choisit ce qui est les choses folles du monde, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ce n'est pas aux faibles de se glorifier par rapport aux forts. C'est aux faibles d'être reconnaissants, humbles, et de comprendre que si eux-mêmes ont intercédé, leur conversion est le fruit et la moisson de l'intercession de quelques chrétiens obscurs d'il y a longtemps, alors il faut qu'eux-mêmes prient sans se relâcher pour la conversion de leur prochain, sans se mettre en peine, trop en peine du moins, des résultats. Il ne faut pas malédifier le prochain, c'est-à-dire prier pour lui, et puis ensuite vivre comme un païen devant lui, de telle sorte qu'il ne verra jamais aucun bon exemple, bien entendu. Mais il ne faut pas dire, ah, j'ai bon espoir parce que là, j'ai fait des bons sacrifices, j'ai bien jeûné, j'ai bien fait ceci et cela, je pense bien que d'ici une quinzaine de jours, la personne va être convertie par Dieu parce que là, le bon Dieu, vraiment, il va m'envoyer l'ascenseur. Peut-être que la personne pour laquelle je prie, et que j'ignore finalement, je ne sais pas si c'est, je me concentre sur telle ou telle personne, mais c'est sans doute une autre qui se reconvertira, peut-être qu'elle se convertira dans 300 ans, si le monde doit encore durer aussi longtemps. Vous voyez, il y a un mystère. Il ne faut pas non plus trop scruter le mystère de la communion des saints, parce que sinon, on commence à parler, à tomber dans le délire de la réversibilité, ce qui est très intéressant, mais on finit par rentrer dans le délire, et puis on se met à prier pour la conversion de je ne sais pas, de si ça et l'autre. Bon, faisons attention. Prions déjà pour les gens que nous connaissons, prions pour notre famille, prions pour notre prochain que nous connaissons et pour lequel nous savons que nous avons un devoir de prier. Maintenant, pourquoi y a-t-il si peu de convertis aujourd'hui? Vous allez dire, il y a beaucoup de convertis. C'est relatif, c'est relatif. Regardez autrefois, une seule prédication de Saint-Pierre, 5 000, 3 000 convertis, 5 000 hommes qui se convertissent par-ci, par-là, des peuples entiers qui se convertissent. C'était le temps des martyrs aussi. Peut-être que s'il y a si peu de conversions, et si j'ose dire de vraies conversions, parce que sur 10 conversions qui se font aujourd'hui à la fois non nunquam, si j'ose dire, à mon avis, il y en a moins d'une, si, statistiquement parlant, qui vaut vraiment. Qui est vraiment une vraie conversion. Une conversion qui ne soit pas la cerise sur le gâteau de la mentalité éveillée aux turpitudes du temps et des élites. S'il y a si peu de conversions aujourd'hui, mes très chers frères, c'est probablement que depuis un certain temps, pas très longtemps, mais trop longtemps déjà, on ne prie plus Dieu comme on devrait le prier. On n'aborde plus l'humanité avec les yeux de notre Père Saint-Augustin, justement, de la doctrine de l'Église et de la doctrine de la liturgie, mais avec des yeux de pélagien. On dit que finalement, Dieu ne violente pas la liberté humaine, que c'est l'homme qui choisit, Dieu propose, l'homme dispose. Et ça fait 300 ans qu'on dit ça, mes très chers frères. Pas tous, évidemment, mais beaucoup. Et donc, du coup, on intercède pour eux, mais on intercède moins auprès d'un Dieu dont la colère est enflammée contre les pécheurs, qu'auprès d'un Dieu qui doit quand même faire un effort pour mieux présenter son étal et afin de rendre les choses plus appétissantes. Mon Dieu, regardez la discipline de l'Église, regardez, il faut jeûner depuis minuit jusqu'à la communion, enfin, mon Dieu, pensez à tous ces siècles et ces millénaires où les chrétiens, la majorité des chrétiens n'ont pas pu communier parce qu'il y avait cette stupide, voilà, mon Dieu, ça fait 1 000 ans, ça fait 1 000 ans qu'on fait une liturgie de la semaine sainte complètement défectueuse. Mon Dieu, on aurait pu y penser avant. Mon Dieu, mettez de l'ordre dans vos affaires. Regardez tous ces gens qui se perdent un peu à cause de l'incurie de vous, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler à Dieu, mes très chers frères? Comment s'étonner de la crise religieuse actuelle? Comment s'étonner du peu de conversions? Comment s'étonner que la quasi-totalité des conversions sont des fausses conversions quand on a prié pendant des générations en insultant à Dieu de cette manière-là et qu'on s'est vautré devant les pécheurs pour essayer de leur élargir la porte étroite à coups de dynamite, en dévaluant la religion, en donnant la communion à n'importe qui, en donnant l'absolution à n'importe qui sur n'importe quel prétexte de vague velléité, de changer vaguement, hop, allez communier, ça vous fera du bien. Mes très chers frères, voilà la raison une des raisons pour laquelle nous sommes dans une crise sans précédent. C'est parce qu'il y a une sorte de. L'hiver dernier, en quelque sorte, on n'a pas semé les bonnes semences et nous sommes au printemps et bientôt à l'été, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a que les seuls épis qui poussent, c'est les épis qui sont là par hasard depuis l'été dernier, avant qu'on ait recommencé à semer. C'est-à-dire, nous recueillons des fruits aujourd'hui, les derniers fruits des siècles qui ont précédé, peut-être il y a 500-600 ans. Je dis ça comme ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est certainement pas les fruits de l'action catholique du XXe siècle que nous recueillons, ou plutôt si nous les recueillons, si nous les recueillons. Le fruit de l'action catholique du XXe siècle, qu'est-ce que c'est? De tout ce grand mouvement de croisades diverses et variées pour la conversion des gens et la conversion de la modernité à l'Église, quels sont les fruits? Les fruits, c'est François. Les fruits, c'est les divorcés remariés. Auxquels on donne, ces malheureux, on leur donne la possibilité de communier parce qu'ils sont dans une situation stable. Alors on dit c'est monstrueux, mais la monstruosité a commencé il y a un peu plus longtemps, mes très chers frères, un peu plus longtemps. Nous sommes obligés de prier pour la conversion des pécheurs, mes très chers frères. Nous devons être des intercesseurs auprès d'un Dieu qui ne veut plus convertir personne. Pourquoi? Parce que sa colère est irritée. Mais d'un Dieu qui nous fait un devoir de prier pour ceux qui se perdent, afin qu'ils ne se perdent pas et que tous les élus soient rassemblés dans le bercail du bon pasteur. Et la dernière partie de l'oraison, est la suivante. Et nous demandons quelque chose à Dieu pour nous, que nous réformions nos actes par l'intercession de notre Père Saint-Augustin en vue de ce qui est meilleur. Que nous réformions nos actes pour le mieux. Mais pour le mieux, en français, c'est une expression qui est un petit peu galvaudée. En tout cas, que nous devenions par une réforme meilleure. Évidemment, ça signifie que nous n'en parlerons pas, mais qu'il peut y avoir une réforme mauvaise. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, on peut avoir été converti par la grâce de Dieu, et puis devenir un pélagien. Ça, c'est vraiment la pire des ingratitudes, comme dirait Saint Prosper. C'est vraiment la pire des ingratitudes. Maintenant, il se trouve que nous devons réformer nos mœurs en mieux. C'est-à-dire, nous devons devenir de toujours plus de meilleurs chrétiens. La conversion, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est le détournement de soi-même et l'ordonnation à Dieu. Nous étions enfants du diable, Dieu nous a convertis, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais sans dire, parce que c'est un peu galvaudé, même si c'est tout à fait vrai, mais qu'il nous faut nous convertir tous les jours, ce qui est vrai. Mais malheureusement, on le dit beaucoup et on le dit un peu partout, et puis les modalistes le disent aussi, ils ont raison. Mais disons que malheureusement, il y a des expressions très belles qui, à force d'être utilisées n'importe comment, deviennent presque impuissantes. Mais cela dit, c'est vrai. Il nous faut perfectionner le mouvement de conversion qui a fait que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et que nous ne sommes plus ce que nous étions. Il nous faut toujours plus nous détourner de nous-mêmes et toujours plus nous ordonner à Dieu. La conversion de notre Père Saint-Augustin est tout à fait emblématique et c'est la conversion de tous ceux qui sont vraiment convertis. Si vous lisez des histoires des anciens convertis, vous allez voir, ils suivent tous le même processus. Notre Père Saint-Augustin était donc un mondain fini, très brillant, très dissipé. Bon, mais une fois qu'il a été converti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le monde, il s'est retiré dans la solitude, il s'est retiré à la campagne, et il a pratiqué, quoi donc? Le silence. Vous allez dire, mais moi j'ai un travail, etc. Bon, chacun son destin, évidemment. La seule chose, c'est qu'il y a une façon de faire qui doit être commune à tous les chrétiens. Lorsque l'on était ceci ou cela dans le monde, du point de vue des vertus ou du point de vue des intérêts, etc., eh bien, il ne faut pas importer toutes ces choses-là de l'autre côté de la barrière lorsque nous devenons chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il nous faut, pendant un temps certain, c'est-à-dire pendant de nombreuses années, nous retirer en nous-mêmes, dans la solitude, autant que cela est possible, ou du moins la solitude du cœur. Ça ne veut pas forcément dire que nous ne devons pas nous marier, fonder des familles, etc. Ce n'est pas ça, mais une solitude intérieure. Nous devons pratiquer le silence, de telle sorte que saint Augustin s'est retiré dans la solitude de la campagne et a pratiqué le silence jusqu'à ce que l'Église l'appelle. Et vous savez qu'il a été en quelque sorte contraint et forcé de devenir prêtre et que son évêque, Valère, était tellement désireux de lui transmettre son épiscopat qu'il l'a fait ordonner, il l'a fait sacrer de son propre vivant afin qu'il soit certain qu'il devienne le père de son Église par la suite. Et saint Augustin a en quelque sorte été retiré, tiré de sa solitude pour accéder à une mission. Que chacun en tire les conclusions qui s'imposent. Vous voyez, j'étais ceci et cela, mais peut-être que je n'étais pas trop mal avant. Je suis converti, je me convertis, et maintenant, il faut absolument que j'aie ma place dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai des choses à dire. Si vous avez des choses à dire, et je ne doute pas que vous ayez des choses à dire, mes très chers frères, si vous avez des choses à dire, taisez-vous. Taisez-vous jusqu'à ce qu'on vous demande de parler. Taisez-vous, parce que comme dit un ancien père du désert, celui enseigné trop tôt, c'est se condamner à ne rien pouvoir comprendre. Il y a des gens qui se convertissent, le jour d'après, ils font un blog, 3 mois après, ils font un site internet, 1 an après, ils font une émission. Et puis c'est l'engrangement, on dirige vers les prêtres, etc., dans les chapelles, des tonnes de convertis qu'on a. Si seulement c'était le cas. Et heureusement que ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, je ne jette pas la pierre parce que ça serait trop facile. Je dis simplement, ce n'est pas comme cela que l'on se convertit. On se convertit de l'état d'enfant du diable à l'enfant reconnaissant de Dieu. Et quand on est reconnaissant, on ne va pas s'imposer à Dieu. On ne va pas dire, mon Dieu, je suis tellement reconnaissant que vous savez, je vais faire quelque chose pour vous, mais est-ce que je vous l'ai demandé? Je vais prophétiser, mais je ne vous ai pas envoyé. C'est exactement le même à propos que si vous avez quelqu'un qui vous... Imaginez, vous êtes un clochard dans la rue, vous avez quelqu'un de très riche qui vous dit, écoutez mon ami, je vais vous réhabiliter, je vais vous renflouer votre compte en banque, je vais vous donner, je vais vous donner une chambre dans mon palais. Alors vous dites, oh ben ça c'est drôlement bien. On arrive dans le palais et alors on arrive et on dit, ah ben vous savez, je suis tellement reconnaissant que vous m'ayez donné une place dans votre palais, que alors, vous savez ce qu'on va faire? On va refaire la peinture ici, là, on va changer le papier, là, à mon avis, ce meuble-là, on va le mettre ailleurs, etc. Et je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent que nous prenions des nouvelles habitudes. Le prince qui vous a accueilli se dit, il me semble que j'ai fait une erreur d'introduire ce trouble-fête chez moi. Je voulais lui faire du bien, et voilà qu'il c'est carrément lui, mon bienfaiteur. Restez à votre place. Restons à notre place, attendons que l'Église nous appelle, si elle doit nous appeler. Et si nous croyons que l'Église devrait nous appeler, eh bien, confrontons-nous à l'Église dans la personne de ses chefs et voyons en disant, mon Dieu, voilà, je vais présenter ma candidature, j'ai peut-être la vocation, que pensez-vous? Et soyez certains que la réponse qu'on vous donnera sera la réponse de Dieu et contentez-vous-en. Ne dites pas non, non, ma petite idée, c'est pas ceci, cela, c'est ma petite idée, c'est fait. Quoi, votre petite idée? Êtes-vous converti seulement? Les mercenaires du Père, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'était le fils prodigue. Les mercenaires du Père, les ouvriers agricoles du Père ont du pain en abondance. Et le demi-converti, lui, déjà, sacrifie le cochon gras. Il est là, il n'est même pas capable de se nourrir des carouges. Qu'il est déjà en train de sacrifier le cochon gras, de faire du saucisson, du lard, etc., des rillettes, et alors qu'il est encore dans son lieu d'exil. La marque d'une véritable conversion, mes très chers frères, c'est la suivante, et ce n'est pas du tout une invention, c'est vraiment ce que disent tous les auteurs, c'est la pénitence qui dure. Il faut être guidé pour savoir comment faire une pénitence pénitence sur le long terme. Aujourd'hui, on se convertit. On fait la prière de 12 ans pour échapper au purgatoire, et à partir de là, et même avant, qu'est-ce qu'on fait? On va évangéliser le monde. Quand on se convertit, on fait pénitence, parce que jusque-là, la colère de Dieu était embrasée contre moi, et si elle s'est détournée de moi, c'est qu'elle s'est abattue en plein sur le Christ. Et maintenant, je dois être humble et reconnaissant, de peur de me montrer ingrat. Les marques de la vraie conversion, c'est la pénitence, une pénitence qui dure, une pénitence guidée par l'éclair. C'est beaucoup plus qu'un changement dans les grandes lignes. La conversion, ce n'est pas quelque chose qui nous procure des avantages personnels. La conversion, même s'il y en a, Deo gratias, il y en a, mais nous ne sommes pas convertis parce que je cherchais ma place dans le monde, j'étais une sorte de paumé, puis maintenant j'ai trouvé ma place, je suis docteur en Israël. Je me convertis parce que j'étais un enfant du diable et que je méritais l'enfer. Et maintenant, j'ai tellement conscience d'avoir été quelque chose d'odieux, au Dieu qui est si bon et qui a détourné sa colère de moi sur son fils, que je vais maintenant faire pénitence. Je vais maintenant rentrer dans le silence, dans les larmes, dans l'ordre. Je vais éviter cette horrible stérilité qui vient de la présomption. Étant rentré en lui-même, dit l'Évangile à propos du fils prodigue, étant rentré en lui-même. On se convertit, on ne rentre pas en soi-même. On se convertit juste à temps pour, je sais pas, pour échapper à quelques doctrines fausses qui nous avaient tentées, pour échapper à quelques grosses corruptions des mœurs, que sais-je. Et puis après, oh, c'est fini l'introspection. Maintenant, je vais convertir le monde. Non, 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 non. Je fais pénitence, une pénitence sur le long terme, la pénitence qu'on m'aura d'ailleurs imposée. Je me tais, je me mets dans l'ordre, je verse des larmes sincères, qui me servent en même temps à intercéder pour ceux que j'ai laissés dans le monde, pour mes parents, pour ma famille, pour mes prochains, pour lesquels je dois maintenant intercéder, et je dois fléchir la colère de Dieu qui s'est détournée de moi, et je vais demander à Dieu qu'elle se détourne d'eux aussi. Il faut que je considère mes œuvres passées et que je les déplore, que je considère mes œuvres présentes et que j'en mette tout le crédit au Christ, puisque toutes les bonnes œuvres que je fais, et je ne serai pas sauvé sans les bonnes œuvres, ne sont autres que les œuvres que me fait faire la grâce méritée par le Christ. Je dois faire l'aveu de mon indignité. Ça, c'est pas simplement du bout des lèvres. Je suis indigne, donc je fais pénitence, donc je me tais. Dieu ne nous relève que dans la mesure où nous nous abaissons, mes très chers frères. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable qui est son temps. Prions, mes très chers frères, pour les pécheurs. Prions, intercédons pour eux, faisons des sacrifices. Maintenons-nous dans l'ordre. Maintenons-nous dans la pénitence, le silence, l'humilité. Et lorsque Dieu nous appellera, il n'appellera pas des présomptueux qui vont faire le scandale de leur prochain, il appellera ceux qui auront la parfaite conformité avec son Fils. Et c'est ceux-là qui sont forts, et c'est ceux-là que Dieu aime comme il aime son Fils, puisqu'ils ne sont pas différents de son Fils. Deo gratias, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.